Il est 6h sur Europe 1.
Quand vous prenez un coup de la part de l'Hollandais, quand vous en prenez deux, vous pouvez être tranquille que vous ne vous relevez pas.
Nordal Lelandais va devoir s'expliquer aujourd'hui. L'ex-militaire jugé pour le meurtre du caporal Arthur Noyer avait donné sa version des faits lundi. Il devra cette fois s'expliquer sur les incohérences de ses déclarations. 10 mois avant que la France ne prenne la présidence de l'Europe, Emmanuel Macron participe aujourd'hui à un sommet social européen à Porto. L'objectif, harmoniser les droits sociaux pour les prochaines années. Et puis une fusée chinoise s'apprête à faire un retour incontrôlé sur Terre. On ignore encore où elle va tomber, mais à ce stade, il n'est pas prévu de la détruire.
Le journal des sports à suivre et puis mon invité inattendu sera un pêcheur inattendu qui vient nous raconter son parcours, lui qui s'est retrouvé primé comme une star d'Hollywood, il nous raconte dans un quart d'heure.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Journée très attendue aujourd'hui au procès de Nordal Lelandais avec l'interrogatoire de l'ancien militaire jugé pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Hier, c'est toute la famille du jeune militaire qui s'est adressée à l'accusé sans aucune réaction de sa part. Mais aujourd'hui, il va devoir enfin s'expliquer sur les faits. Jean-Luc Bougeon.
Depuis lundi, Nordal Lelandais s'est très peu exprimé en dehors d'une intervention pour affirmer que c'est involontairement qu'il avait tué Arthur Noyer et de vagues excuses à la famille. On a finalement assez peu entendu le son de sa voix, mais cela va changer aujourd'hui. L'ancien maître chien doit tout à l'heure rentrer dans les détails de sa version des faits. Son parcours, une fois qu'il prend en stop le caporal, la dispute qui les oppose, pour quel motif, dans quelles circonstances, puis la bagarre entre les deux hommes et la façon dont il a tué le jeune militaire. Hier, les images de la reconstitution et des coups portés ont été projeté. Et c'est assez édifiant, estime l'avocat de la famille Noyer, Bernard Boulou.
Vous avez vu la violence des coups. Il faut bien vous dire qu'ils se retenaient quand même. Il y avait quand même deux gendarmes qui tenaient le mannequin et ils avaient beaucoup de peine à le retenir, ce mannequin. Quand vous prenez un coup de la part de l'Hollandais, quand vous en prenez deux, vous pouvez être tranquille que vous ne vous relevez pas.
L'Hollandais devra donc cette fois parler, s'expliquer. Hier encore, il n'a absolument rien dit face aux membres de la famille Noyer, le père, la mère et le frère. Même la grand-mère a pris la parole. Regardez-moi dans les yeux, lui a-t-elle dit. Vous nous avez enlevé Arthur, j'embrasse la photo de mon petit-fils chaque matin, c'est tout ce qu'il me reste, vous devez nous dire toute la vérité. Chambéry, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
48 heures après la mort du policier tué à Avignon, son meurtrier est toujours activement recherché.
Une toxicomane témoin du drame est actuellement en garde à vue. Elle est également suspectée d'être la cliente du dealer qui a tiré sur le fonctionnaire de police. Sur place, l'émotion est toujours vive. L'intersyndicale de la police appelle à une marche des policiers à Paris le 19 mai.
Et puis, autre émotion très vive après le drame de Mérignac. Ce drame aurait-il pu être évité? La question se pose après l'assassinat de cette mère de famille brûlée vive par son ex-compagnon.
Le suspect de 44 ans avait été condamné l'an dernier à de la prison ferme pour des violences sur son épouse. Il était en sursis probatoire depuis la fin de l'année avec interdiction d'entrer en contact avec sa victime. Une mission d'inspection devra éclaircir les dysfonctionnements qui ont permis à ce multi-récidiviste d'échapper à la surveillance en dépit d'une nouvelle plainte de la victime en mars dernier.
Allez, de bonnes nouvelles à présent. C'est un record. Plus de 600 000 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées en 24 heures en France. Nouveau coup d'accélérateur. Un nouveau coup d'accélérateur va être donné à la campagne de vaccination.
Emmanuel Macron a annoncé hier que les plus de 50 ans pourraient se faire vacciner dès le 10 mai prochain. À l'origine, c'était la date du 15 qui avait été retenue. Et puis c'est à noter, tous les adultes pourront recevoir leur dose dès le 12 mai, dès lors qu'il restera des créneaux disponibles la veille pour le lendemain sur les plateformes de prise de rendez-vous.
Emmanuel Macron qui se rend au Portugal aujourd'hui où il va participer à un sommet social européen.
Et l'idée de ce sommet est d'harmoniser les droits sociaux en Europe pour les années à venir. Jean-Rémy Baudeau, vous allez suivre ce sommet depuis Porto pour Europe 1. Le chef de l'État veut pousser des réformes qu'il espère revendiquer lors de la présidence française de l'Union européenne.
Oui, salaire minimum, formation, égalité femmes-hommes, conditions de travail, voilà autant de dossiers qui seront abordés jusqu'à demain à Porto. Un rendez-vous social européen autant qu'un enjeu politique pour Emmanuel Macron, car dans un peu plus de 6 mois, la France présidera l'Union européenne. On sera en pleine campagne présidentielle et le chef de l'État compte bien capitaliser sur les avancées sociales qu'il pousse en Europe. Concrètement, la France, plutôt en avance sur les droits sociaux, compte exporter certaines de ses pratiques. Dès son discours de la Sorbonne en septembre 2017, Emmanuel Macron avait par exemple appelé à la création d'un salaire minimum en Europe. Le sujet sera abordé à Porto. Paris qui pousse aussi pour un meilleur dialogue social pour les travailleurs des plateformes Internet. Un texte est à l'étude. La France espère un accord pendant sa présidence, confirme un conseiller à l'Élysée. De là à penser l'Europe comme un argument électoral pour 2022, pas évident face aux candidats eurosceptiques en France. Mais comme me le confiait hier un ministre macroniste, parler d'Europe aura au moins un effet positif sur les marcheurs. Cela permettra de remobiliser nos électeurs.
Jean-Rémy Baudeau pour Europe 1.
À Saint-Brieuc, la colère des pêcheurs contre un projet de parc éolien offshore.
Et les travaux ont débuté cette semaine en plein milieu de la baie de Saint-Brieuc. Et pour les pêcheurs bretons, déjà touchés par le Brexit et la crise sanitaire, c'en est trop. Ils ont prévu une action coup de poing ce matin. Charles Guyard s'est rendu sur place.
C'est là partout où je travaille, là, au chalut, et ben, il y aura une éolienne en plein dedans.
Comme Jonathan Thomas, les quelques 300 patrons de bateaux de pêche qui sillonnent la baie de Saint-Brieuc craignent le pire, alors que vont se dresser d'ici 2023 62 éoliennes dans leur zone d'activité.
Ben déjà, quand on voit les gros câbles électriques, ça va créer des ondes. N'importe quelle vibration va faire fuir le poisson. Poisson, coquille, n'importe quoi, sur plusieurs années. Si on n'arrive pas à faire changer les choses, ça sera un dépôt de bilan si on reste ici.
Changer les choses, c'est-à-dire faire plier l'Espagnol Iberdrola, le porteur du projet, qui assure pourtant avoir tout mis en œuvre hein, pour permettre aux pêcheurs de cohabiter avec ce parc offshore. Seulement voilà, explique le directeur général en France, Emmanuel Rollin, entre l'appel d'offres remporté et le début des travaux cette semaine, 10 années se sont écoulées.
C'est vrai que la durée use, il y a de nouveaux pêcheurs, des nouvelles générations qui ne sont pas au courant. Tout est fait pour que la pêche soit possible au sein du parc. Maintenant, il y a encore un effort d'explication qui doit être fait en espérant que le calme revienne très rapidement.
Le calme, ça ne sera pas pour aujourd'hui, en tout cas puisque les pêcheurs ont prévu d'encercler le chantier pour bloquer les bateaux d'Iberdrola et retarder ainsi les travaux.
Ils nous ont chassés de chez nous et bah, toute notre vie, on les embêtera.
Première action d'une lutte qui pourrait donc s'inscrire dans la durée. Saint-Brieuc, Charles Guyard, Europe 1.
Les ONG multiplient les appels à imposer un embargo sur les armes à la Birmanie, alors que 770 civils ont été tués depuis la prise de pouvoir par la junte le 1er février dernier.
L'entreprise Total, présente sur place, partagerait une grande partie de ses revenus avec les militaires, selon le quotidien Le Monde. Les salariés birmans du géant pétrolier sont eux face à une situation inextricable, pris entre pression de leur direction et envie de manifester. Jean-Sébastien Soldaini.
Ceux qui tentent de rejoindre la contestation risquent de se faire enrôler par l'armée. La menace serait clairement exprimée par la hiérarchie de Total sur place. Alors seuls quelques-uns ont fait ce choix. Les autres continuent de produire. Éric Cellini est le coordonnateur CGT du groupe en France. Il est en lien avec ses collègues birmans. Il lui explique leur façon de contourner la contrainte.
Les salaires de ces salariés-là sont quand même des salaires qui sont relativement supérieurs à la moyenne du pays. Donc qui peuvent permettre effectivement de continuer à faire vivre ceux qui ont été licenciés ou qui sont en grève et qui ont arrêté de travailler pour pouvoir protester dans la rue.
Après avoir demandé à Total de se retirer du pays, certains salariés birmans semblent changer de pied. Un autre responsable syndical de l'entreprise confie qu'un départ de Total serait un handicap pour la population. Si le groupe cesse sa production de gaz, la ville de Rangoon notamment se retrouve sans électricité. 5 millions de personnes, ce serait un coup de plus sur la tête d'habitants déjà sonnés par la pauvreté, l'inflation et la répression.
Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1.
Et puis attention, fusée chinoise en approche.
Oui, ce n'est pas une bonne nouvelle. La navette spatiale complètement hors de contrôle pourrait s'écraser sur Terre dans les prochains jours, Pierre Herbulot.
Oui, 21 tonnes de métal en chute libre. L'étage central de la fusée chinoise Longue Marche 5B. Lancée fin avril, elle a permis d'envoyer dans l'espace l'un des modules de la future station spatiale de Pékin. Sauf qu'après avoir accompli sa mission avec succès, l'appareil de 30 mètres de long pour 5 de large refait le chemin en sens inverse. Toujours en orbite, 160 km au-dessus de nos têtes, la fusée descend doucement mais sûrement vers la Terre à 28 000 km/h, entrée incontrôlée dans l'atmosphère prévue d'ici lundi. À cette vitesse, la majeure partie de l'appareil devrait se désintégrer, mais quelques morceaux plus résistants pourraient bien tomber sur Terre. La trajectoire de l'engin qui fait 12 fois le tour de notre planète chaque jour est difficile à prévoir d'après les spécialistes. Ils estiment possible mais très improbable que des débris s'écrasent sur une zone habitée. Pour autant, l'an dernier, une énorme tige de métal appartenant à une fusée chinoise similaire avait terminé sa course dans un village de Côte d'Ivoire sans faire de victimes.
À ce stade, les États-Unis n'ont pas prévu de détruire la fusée.
Voilà, on va espérer qu'elle tombe en mer. Ce serait plus pratique pour tout le monde. Soyons clairs. 6h10 sur Europe 1, c'était le journal d'Émilie Dèze.